En Sud-Ardèche, un pôle écologique et intergénérationnel est en train d'émerger. Porté par Sophie Rabhi et Laurent Bouquet, cette initiative se base principalement sur une école dont la pédagogie est fondée sur le respect de l'enfant et la pratique de l'écologie au quotidien. Ce projet s'appelle le Hameau des Buis. Il est la suite logique de la création de l'école La Ferme des Enfants. Le Hameau des Buis est un éco-hameau bâti selon des principes écologiques et bioclimatiques. L'école et le maraîchage sont d'ores et déjà en activité, tandis que l'éco-hameau vient d'achever sa construction sous la forme d'un chantier solidaire. Sophie Rabhi est depuis quelques années impliquée dans la mouvance de l'histoire du colibri, une légende amérindienne que Sophie vient nous conter.
Alors, la légende du colibri, c'est une forêt qui prend feu, donc un incendie qui se déclenche dans la forêt. Et les animaux de la forêt sont tout affolés, ils se sentent en danger. Et il y a le petit colibri qui va au lac chercher une goutte d'eau dans son bec pour la verser sur le feu et qui fait des allers-retours comme ça avec sa goutte d'eau. Et il y a le tatou qui le regarde s'agiter ainsi, puis qui lui dit « Petit colibri, qu'est-ce que tu fabriques? C'est ridicule, tu vois pas que c'est pas comme ça que tu vas éteindre le feu. » Et là, le colibri lui répond « Je sais, mais je fais ma part. »
Alors c'est génial parce que cette histoire, j'ai entendu plein de fois. Alors j'ai eu droit à des éléphants dedans, j'ai eu droit à des girafes. En fait, c'est bien toute la diversité qui est réunie aussi au sein de cette histoire. Mais en tout cas, le message est simple. Aujourd'hui, la forêt brûle. Donc qu'est-ce que tu vois derrière cet incendie et quel est ton axe dans lequel tu aimerais pouvoir faire ta part, Sophie?
Alors pour moi, l'incendie, il est avant tout intérieur, parce que quand, évidemment, moi je suis née dans une famille où on se posait beaucoup de questions sur l'état du monde et la façon de remédier aux problématiques rencontrées. Et donc j'ai grandi dans cette réflexion-là, et il y avait toujours quelque chose qui ne me satisfaisait pas dans les limites de la réflexion, et qui était de se dire, soit c'est une fatalité, ou bien c'est parce que l'humain... c'est un être idiot, barbare, et tout ça me semblait assez gratuit. Et j'ai eu une réponse un jour en lisant les livres d'Alice Miller, qui est une psychothérapeute suisse-allemande qui est décédée depuis. Et elle a écrit un livre notamment qui s'appelle « C'est pour ton bien, racine de la violence dans l'éducation ». Et là, elle racontait à travers toute une étude comment l'être humain devient destructeur, mais alors qu'après, il ne l'est pas a priori, il le devient. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce que, effectivement, j'avais cette intuition en moi que, en fait, l'être humain, il n'est pas spécialement mauvais, il n'est pas non plus inabouti, mais simplement il n'a pas la possibilité de s'épanouir de manière à vivre en harmonie avec les autres, avec son environnement, du fait de l'accompagnement inadéquat qu'il reçoit depuis sa toute petite enfance. Donc moi, c'est ce qui m'a donné envie de m'occuper des enfants et de m'occuper de moi-même aussi, de mes propres blessures, pour pouvoir retrouver cette source initiale où nous avons en nous tout ce qui nous est nécessaire à cette harmonie, mais qui est tellement difficile à acquérir.
Donc selon toi, pour que l'humain œuvre dans le bon sens, soit à l'écoute de son cœur, il y a une grande part à prendre dans l'éducation, dans la façon dont il est élevé, dans la façon dont il grandit.
Absolument, parce que quand on accompagne un enfant avec... les modes éducatifs ordinaires, on se rend compte que cette éducation ordinaire, elle est empreinte de violence. Donc c'est une violence qui n'est pas forcément évidente. Il y a les violences évidentes qui, elles, sont contestées par la majorité des personnes, donc quand il y a vraiment de la maltraitance avérée, etc. Mais il y a toute cette violence éducative ordinaire qui se cache dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans nos comportements à l'égard de l'enfant. Et cette violence éducative ordinaire imprègne profondément nos sociétés, construise l'humanité, en fait. Et donc, quand déjà les modes d'accueil de l'enfant à la naissance, les modes d'accompagnement des bébés, la reconnaissance des émotions du bébé, etc. Si on transforme tout ça pour vraiment être dans une forme de totale bienveillance, de totale empathie avec l'humain, de total accueil de ce qu'il est, on arrive petit à petit à transformer les comportements du futur adulte, parce que on a la permission sur un plan hein, d'être vraiment qui on est, alors que l'éducation conforme énormément, et dans cette demande de conformité il y a une très grande violence, et pour arriver à nos fins, à nos objectifs, nous n'hésitons pas à utiliser la punition, la récompense, le mensonge, la manipulation, la domination de l'enfant, etc. Des choses qui sont utilisées de manière assez banale, assez vulgarisées dans nos sociétés, ça c'est très bien partagé tout autour de la Terre, hélas, mais qui produisent des sociétés qui elles-mêmes vont devenir violentes, manipulatrices, barbares, cupides, et qui vont avoir tendance à exploiter et leur prochain et leur environnement.
Des fois, au sein d'une même famille, avec plusieurs enfants, on peut s'apercevoir que l'un va être tourné vers l'environnement, l'écologie et le développement de sa propre personne, et l'autre peut être tourné plus vers le développement matériel, alors que l'éducation semble sensiblement être la même.
C'est vrai que donc, c'est toute l'histoire de l'inné et de l'acquis. Effectivement, nous ne naissons pas vierges de toute empreinte, puisque on sait maintenant que... nous sommes porteurs de messages génétiques, cellulaires, transgénérationnels. Donc effectivement, il y a des choses qui sont déjà jouées, on peut dire à la naissance, sur un plan. Mais on peut travailler aussi dessus. C'est-à-dire que si on en a conscience, et si on est dans cette conscience-là, on peut accompagner l'enfant de manière à ce qu'il puisse prendre conscience de la manière dont il est construit à l'intérieur. Et c'était vraiment toute la proposition de Krishnamurti, qui est aussi un fondateur d'école. Il en a fondé 7 dans le monde de son vivant, et qui proposait de vraiment se regarder tel que nous sommes et de partir de cette base-là pour trouver notre axe et notre humanité.
Aujourd'hui, on est donc face à différents types de pédagogie. On a le système de l'éducation nationale par lequel on est pratiquement tous passés. On entend parler de Steiner, Montessori, tu me parles de Krishnamurti. Est-ce que tu peux me faire un peu un panel des différents types d'écoles qui existent aujourd'hui en France ?
Alors aujourd'hui en France, je ne suis pas spécialiste des écoles alternatives, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc moi, je vois plusieurs grands courants. Il y a le courant des écoles Waldorf, Steiner... que l'on retrouve pas mal dans l'Est de la France et en région parisienne. Montessori, c'est une cinquantaine d'écoles en France actuellement. Il y a des écoles de Crowley, notamment l'école qui est en région parisienne et qui, elle, est reconnue par l'État. Il y a le plus, celui qui est, d'un point de vue institutionnel, a été le mieux accueilli et le plus reconnu, au sein même de l'institution, s'est freiné. Et tous les mouvements d'éducation nouvelle qui ont eu de très belles années au sein même de l'institution. Et puis, après, je pense qu'il y a quelques alternatives, comme l'école de la Neuville qui a été inspirée plutôt par la pensée de Françoise Dolto. Il y a quelques alternatives isolées avec des projets plus particuliers, comme des écoles avec des projets théâtre ou l'école en bateau. Des choses comme ça. Mais... Donc, il y a pas mal de propositions, mais c'est vrai que ce que je ressens en tant que responsable d'une école alternative, c'est que nous sommes dans un pays qui fait peu de place à ce type d'initiative. Si je compare, par exemple, avec l'Allemagne ou avec des pays du nord de l'Europe où la culture est davantage tournée vers la pédagogie alternative.
Donc toi, Sophie, tu as choisi comme mode d'action, on revient à cette légende de l'incendie, de la goutte d'eau. Donc l'action pour toi, c'est l'éducation, s'occuper des enfants à travers une méthode pédagogique qu'on va peut-être voir ensemble un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers l'éducation plutôt qu'autre chose ?
Alors ce qui m'a amené à me tourner vers l'éducation, ça a été d'abord des faits de ma vie, parce que Donc j'ai grandi dans une ferme où mes parents avaient un élevage de chèvres. Donc c'était un peu la base de l'économie familiale. Et à un moment donné, quand donc nous sommes 5 frères et sœurs, nous avons tous quitté la ferme. Et au moment où chacun de nous est parti, ma mère a décidé d'ouvrir la ferme au public enfant par le biais d'accueil paysan. Donc moi, j'ai participé à cette aventure dès le départ parce que j'étais étudiante et je revenais pendant toutes les vacances scolaires pour prêter main forte à cette nouvelle initiative. Donc je faisais à la fois la cuisine, l'animation... Le concept d'accueil paysan, c'était vraiment de permettre à l'enfant de connaître de l'intérieur la vie du paysan et la production alimentaire, pour que ce ne soit plus une abstraction et que ça éveille son enthousiasme, sa curiosité. Et de là, quand donc j'ai eu une expérience de plusieurs années à travers l'accueil d'enfants, et quand j'ai été moi-même maman, ça a été pour moi une déflagration. De savoir que je devenais responsable d'une vie humaine et que j'allais devoir répondre au mieux aux besoins de cet enfant. Et je me suis posé vraiment beaucoup de questions. J'ai plongé dans la littérature des expériences et des témoignages sur l'accueil de l'enfant, les besoins de l'enfant, l'accouchement. Donc j'ai 4 enfants qui sont nés à la maison, qui ont été beaucoup portés, qui ont été allaités naturellement à la demande, qui... je me suis intéressée aux travaux de l'américaine Aletta Salter concernant l'accueil et l'empathie sur les bébés. Ça a été tout un cheminement naturel hein, qui est né de ma vie de maman et en même temps de cette expérience d'accueil d'enfants à la ferme. Et j'ai mis ensemble mes compétences pour proposer à un moment donné, c'était en 97 hein, que l'idée est née, d'ouvrir une école dans la ferme. Donc nous avions les enfants pendant les vacances et ma proposition c'était de les avoir pendant l'année scolaire pour faire un travail plus approfondi de relation avec l'enfant et d'accompagnement de l'enfant dans tous ses apprentissages fondamentaux. Thank you.